1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette 101e édition du Grand Direct de Radio Django. Au programme de ce soir, nous vous proposons 4 sujets et on va commencer par une campagne, Isabelle, la campagne pour le miel équitable.
Exactement, on parle de miel équitable aujourd'hui avec Giada de Coulon, porte-parole de l'association romaine des magasins du monde, association qui vient tout juste de lancer sa nouvelle campagne, on en parlera tout à l'heure.
Exactement, dans quelques instants pour être précis. Dans une vingtaine de minutes, ce sera le retour de Voix d'Exil et nous parlerons ce soir de l'avancée des accords de Dublin. Dans La Rose des Vents, ce sera notre première partie. Et puis à 18h30, tout à l'heure, toujours dans La Rose des Vents, nous allons parler de la place des musulmans dans le canton de Vaud avec l'Union Vaudoise des associations musulmanes, Daniel.
Alors oui, un sujet qui nous proposera une réflexion cocasse, je vais dire, parce que le nom de cette journée, en tout cas l'une des conférences, était un islam vaudois, point d'interrogation. Et ensuite, se sont en fait développées d'autres conférences autour des messages portés par les imams des différentes mosquées du canton de Vaud.
Et on aura l'occasion donc de parler islam ce soir et des musulmans dans le canton de Vaud, si j'ai bien compris.
Et diversité culturelle et religieuse.
Ah bah oui, quand même, voilà.
Inclusion.
C'est tout. Voilà, un riche programme pour La Rose des Vents, on l'a compris ce soir. Et puis, à 7h20, on passera à Cultiver Lausanne, Stéphane, et nous parlons musique avec un album intitulé Vita, un album hommage.
Oui, à Léon Francioli, qui nous a donc quitté l'année passée. Et pour ce faire, on va accueillir Tiziano Morena, qui est donc guitariste, chanteur, et qui avait enregistré cette douzaine de titres avec Léon, quelques années avant son départ pour la Pinte Céleste, comme dirait Pierre-Louis Pécla, un autre intervenant ce soir.
Voilà, et puis on va d'ailleurs retrouver des extraits de cet album Vita tout au long de cette émission, puisque Stéphane, tu nous proposes des extraits entre les différentes rubriques.
Hein. Oui, parce que c'était quand même la moindre des choses.
Et ben voilà, comme ça on le découvre en même temps que cette émission. Du miel équitable, des accords Dublin, l'Union Vaudoise des associations musulmanes et Vita de Tiziano Morena. C'est le programme de cette édition du mardi 16 mai, 101e édition du Grand Direct. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et aujourd'hui, dans Vivre à Lausanne, nous abordons le thème du commerce équitable et plus particulièrement celui du miel, Isabelle.
Oui, Fabien, le miel équitable, c'est la nouvelle campagne de l'association romande des magasins du monde, l'ASRO, qui promeut un modèle économique alternatif permettant une plus grande équité dans le commerce.
Et justement, pour en parler ce soir, nous accueillons Giada de Coulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes porte-parole de l'ASRO. Alors, on l'a dit à l'instant, votre association cherche à promouvoir une économie plus solidaire et plus équitable. Pour quelle raison avoir choisi de faire une campagne concernant le miel spécifiquement ?
Alors, il faut savoir que le miel est un produit historique du commerce équitable. Il a été commercialisé pour la première fois en 1993 en Suisse. Une autre question importante pour nous, c'était le fait de prendre de fond en fait, une critique qui arrive souvent par rapport au commerce équitable, par rapport à cette mode du local et de consommer local. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les magasins du monde avaient envie, en fait, cette année, avec le produit du miel, de pouvoir envisager une dimension qui est importante par rapport au commerce équitable, c'est-à-dire la thématique de l'importation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étonnement de voir des pots de miel d'Amérique latine sur les étals des magasins du monde en se disant « il y a du miel en Suisse qui est produit en Suisse ». Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une production de miel en Suisse qui n'est pas suffisante par rapport à la consommation qui se fait en Suisse et que du coup, il y aura forcément de l'importation qui va se faire. Donc c'est là que notre campagne arrive en postulant que ce miel qui est importé, on souhaiterait qu'il soit équitable plutôt qu'il vienne de grandes distributions qui ont peu de regard parfois pour les producteurs, pour un salaire, pour leur proposer un salaire décent par rapport à ce qu'ils fabriquent.
Alors quand vous dites équitable, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ?
Alors le commerce équitable, c'est un concept en soi en fait qui est parti d'une revendication de producteurs du Sud qui dans les années 70 avaient demandé de plus faire de l'aide mais du commerce en fait, de pouvoir leur permettre de vivre de leur propre production en leur offrant un salaire décent par rapport à ce qu'ils produisent, mais aussi il y a toute une idée de durabilité, c'est-à-dire que le commerce équitable permet des relations sur la longue durée, ça permet des préfinancements des récoltes, ça permet d'investir dans des projets sociaux, des projets de biodiversité. Il y a une prime au commerce équitable. Voilà, c'est tout un ensemble de commerce qui se veut être alternatif et différent que ce qui se pratique dans le commerce commun, en fait, dans les grandes surfaces.
Et vous l'avez dit, la Suisse produit peu de miel et en importe beaucoup. C'est aussi pour cette raison que vous vouliez vous focaliser sur le marché suisse.
Effectivement, alors il y a une réalité suisse qui est assez cocasse, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'apiculteurs au mètre carré qui est impressionnant en Suisse et une production qui est très faible.
Mais comment vous expliquez ça ?
Alors, deux choses. Une chose, c'est que la production de miel en Suisse, c'est le fait de beaucoup de passionnés et puis de personnes qui le font comme de manière accessoire et qui, du coup, auront peu de ruches. C'est souvent des personnes qui ne le font pas pour le commerce, mais plutôt par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qu'ils privilégient comme activité. Et du coup, une autre dimension de la production, c'est le fait de notre climat, en fait, qui ne permet pas une production énorme par ruche. Dans des pays, même au sud de la France, il y aura une plus grande productivité par ruche.
Mais il faut quoi ? Il faut du soleil, il faut du chaud, il faut beaucoup de plantes
Et des abeilles.
Et des abeilles.
Voilà, exactement. Effectivement, il faut des plantes. Et s'il y a une période de floraison qui est plus longue, il y aura effectivement plus de miel, de récolte de miel.
Et vous nous disiez hors antenne que votre association est focalisée uniquement sur le marché romand. Enfin, vous êtes une association.
L'association, en fait, de laquelle je suis coordinatrice et porte-parole, s'appelle l'Association romande des magasins du monde. Nous avons 37 lieux de vente actuellement en Romandie. Après, c'est un mouvement qui est global, le commerce équitable et aussi on retrouve des équivalents dans d'autres pays et dans d'autres parties de Suisse. Mais vraiment, pour cette campagne, c'est l'ASRO qui l'amène.
Et justement, parlons-en de cette campagne. Quel est le but premier de votre campagne ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs buts. Il y en a un qui est celui de susciter une réflexion dans nos modes de consommation. Ça, c'est quelque chose qui est assez général au commerce équitable et aux magasins du monde. C'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qu'on consomme, comment, qui produit ce qu'on consomme, comment il est importé en Suisse, quel est l'impact de notre consommation quotidienne. Ensuite, il y avait vraiment cette réflexion par rapport au miel, par rapport à pourquoi on importe, qu'est-ce qui fait qu'on vend du miel qui vient d'Amérique latine dans des magasins de Suisse. Je pense que c'est vraiment des enjeux globaux qui sont traités. Et puis, il y a aussi l'idée de pouvoir remettre les magasins du monde comme des spécialistes du commerce équitable, comme des spécialistes de l'information aussi du commerce équitable. Parce que c'est vrai qu'on retrouve des labels du commerce équitable dans la grande distribution, mais dans les magasins du monde, il y aura la possibilité d'avoir une traçabilité complète, une information par rapport à ce qu'on consomme. Et ça, je pense que c'est une des choses importantes, c'est aussi de rappeler en fait, qu'on trouve des bons produits dans les magasins du monde assortis d'informations.
Et vous direz qu'elle est, du coup, elle s'adresse plutôt à un public non informé ?
La campagne ?
Oui.
Alors, oui, a priori, on essaye de toucher le plus grand monde possible, en fait. Alors, il y aura tout d'abord la clientèle des magasins du monde qui, on le sait, une clientèle qui est souvent engagée, qui pose des questions et qui aime en savoir plus sur les produits qu'elle consomme. Et après, l'idée, c'est effectivement de sortir du magasin, d'aller dans les marchés et puis de rencontrer des personnes qui seraient peut-être moins sensibles à ces dimensions-là.
Alors on sait actuellement le réchauffement climatique notamment, bon il a bon dos le réchauffement climatique, on le sait, la pollution également tue de nombreuses abeilles, les abeilles il y en a de moins en moins, c'est tous des slogans qu'on entend régulièrement par chez nous principalement. Est-ce que le but de votre campagne est également de sensibiliser les gens à la disparition de ces petits insectes ?
Alors tout à fait, nous sommes entrés en fait par la porte du miel qui est notre spécialité par rapport au commerce équitable, mais on a vraiment ce souci en fait, à partir du moment où on se soucie de quelle est notre démarche citoyenne en tant que consommateur, je pense qu'il y a aussi la réflexion, quel est notre impact environnemental au moment où on consomme. Et c'est dans cette voie-là, c'est vrai qu'on a préparé cette campagne vraiment en lien avec des apiculteurs suisses aussi et des spécialistes de l'apiculture qui nous ont aidés à thématiser aussi alors tous les enjeux environnementaux qui sont liés à la production de miel, à la disparition des abeilles. Et puis après, effectivement, les miels qu'on commercialise sont majoritairement biologiques. Donc on avait ce souci depuis le début.
Et puis à l'occasion de cette campagne sur le miel équitable, votre association organise plusieurs événements, dont le premier a débuté samedi dernier, c'était le 13 mai. Pour la suite, comment est-ce que ça va s'organiser ?
Oui, alors le 13 mai, effectivement, c'était la journée mondiale du commerce équitable. Et là, on a eu vraiment dans 16 lieux différents de Suisse romande des dégustations, des petits événements qui ont eu lieu. Pour la suite, il y aura ce jeudi soir à Lausanne, au Jardin Botanique, une table ronde où on va vraiment essayer d'envisager ces enjeux qui sont d'une apiculture qui peut servir au commerce équitable. On a l'invitation de deux apiculteurs guatémaltèques qui vont arriver ce soir en Suisse et qui seront là en fait pour porter un peu la voix du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup hein, ici dans les pays du Nord du commerce équitable et on a peu de fois l'occasion de pouvoir entendre la voix des producteurs. Mmh. Donc on a vraiment souci de les faire venir et pouvoir les faire s'exprimer. Ensuite, il y aura un représentant d'une ONG belge, Miel Meyer Honig, qui est lui aussi un spécialiste du miel équitable et qui fait des projets de développement en lien avec le miel. En face de ces personnes, ou alors à côté, dans la table ronde, on a voulu mêler en fait, des personnes. Par exemple, il y a une personne de la FEDEVACO, Maxime Gindreau, qui viendra parler d'un projet d'Helvetas qu'il est allé visiter à Madagascar, où il y avait un projet de mettre en place des ruches et une apiculture dans un projet de développement. Mmh. On trouvait intéressant de mettre en lien en fait, ce commerce équitable et le développement. Et bien sûr, il y aura aussi la présence de M. Sauvin, qui est l'apiculteur du Jardin Botanique, pour qu'il puisse porter la voix aussi des apiculteurs suisses.
Et pour revenir juste sur les deux invités guatémaltèques, pourquoi avoir choisi le Guatemala ? Est-ce que c'est un grand producteur de miel ?
C'est un producteur de miel qui exporte surtout. Moi, j'ai parlé avec ces producteurs qui m'expliquaient qu'ils étaient en train de lutter pour faire aussi reconnaître, vendre leur miel sur place comme un produit qui pourrait être mis sur des tartines, qui pourrait sucrer. Parce que chez eux, c'est très utilisé comme un produit médicinal encore. Pourquoi nous les faisons venir ? C'est parce que ça fait partie des producteurs avec lesquels on travaille et on commercialise leur miel en Suisse.
Et outre des événements sur Lausanne, il y a quelles villes vont
Oui, voilà, vous avez raison. Excusez-moi, je m'étais arrêtée là-dessus. Le 20 mai encore, nous aurons une grande journée à Cernier, à l'Espace Abeille, qui est un endroit magique dans le Val-de-Ruz, où se déroulera en fait toute une série d'ateliers qui vont mêler les apiculteurs locaux et ces apiculteurs guatémaltèques, ainsi que cette personne de l'ONG belge, afin de parler en fait un petit peu des enjeux actuels de l'apiculture, quelles sont les réalités différentes, un peu qu'est-ce qui se passe au Guatemala. Par exemple, ils ont cet avantage d'être en coopérative, ce qui existe très peu en Suisse, par exemple. Mais aussi de pouvoir vraiment, on se disait, échanger sur quelles sont les bonnes pratiques à faire, comment ça se passe d'un côté et de l'autre de l'océan, quels sont aussi ce qui nous rassemble, en fait, pas que les différences. Voilà, donc ça sera toute la journée. En même temps, on a un grand concours photo sur Facebook qui cherche à mettre aussi un peu en lien les personnes et toute cette passion par rapport à l'apiculture qu'on a découvert en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à l'apiculture et au miel. Et il y a la possibilité de mettre une photo d'une ruche insolite. Et au mois de septembre, on aura un grand événement pour la remise des prix de ce concours photo.
Un grand tirage au sort. Donc, vous le disiez, là, de plusieurs lieux avec des événements, Fribourg, Genève, Jura, Jura-Bernois, Neuchâtel, Le Valais, j'en ai oublié. Je crois pas. Hein.
Vous êtes allé vite. Ouais. Mais je ne pense pas, c'est les cantons romands.
C'est les cantons romands. Ouais. Et justement, le principe dans tous les cantons sera la même thématique avec à peu près les mêmes discussions.
Alors, la grande force des magasins du monde, c'est qu'il y a cette diversité dans plusieurs lieux de suite. Suisse, il y a 37 magasins avec beaucoup de bénévoles. C'est toutes des forces bénévoles hein, qui font marcher ces magasins du monde. Et ça rassemble beaucoup de gens différents, de différents horizons. Ce qui fait que ces personnes vont faire vivre la campagne à leur rythme et selon ce qu'ils ont envie de transmettre. Donc, il y a des stands, des dégustations, des choses comme ça, mais après chaque magasin a loisir de faire vivre la campagne comme il l'entend.
Et ben voilà de quoi donner l'eau à la bouche si je puis me permettre, parce que moi j'adore le miel, je suis un grand fan de ça moi, qui vient de Suisse c'est encore meilleur effectivement. Merci beaucoup Diada de Coulon d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de la campagne que vous menez pour un miel équitable. Vous êtes coordinatrice et porte-parole de l'association des magasins du monde, merci beaucoup.
Merci à vous.
Une très bonne soirée et on rappelle que vous pouvez suivre tous les événements locaux sur la page Facebook avec le concours dont on parlait à l'instant sur les ruches sur la page Magasins du Monde de Lausanne, une petite recherche, mais on vous met bien sûr, évidemment, les liens sur l'excellent travail d'Isabelle sur notre page de notre site www.django.fm. Un sujet proposé et préparé ce soir par Isabelle. Merci.
Merci.
Il giorno non ha un domani.
C'est toujours sans lendemain.
il nostro tempo sospeso.
Le temps, notre temps suspendu.
Fugace per sempre svanirà.
Fugace pour toujours s'en ira, bébé.
Nell'aria suona un tango.
Un tango résonne dans l'air.
Che lento diventa un
blues. Lentement.
Per dar vita a un'altra vita.
Pour donner vie à une autre vie.
La notte
la
dipinta con i colori.
Avec les couleurs.
Della speranza. La pittrice la dipinta.
La peintresse la brossée avec
i colori della
vita. De la vie.
Uomini come cani randagi.
Comme des chiens errants, des hommes à bois. À la lumière.
Latrano alla luce che non
che
verrà mai più. Spenta è per sempre.
Pour toujours.
La notte dipinta.
La nuit peinte.
I colori. La speranza, la pittrice l'ha dipinta.
Patrice la brossée.
I colori della morte.
Avec les couleurs de la mort, bébé.
Nell'aria suona una marcia funebre.
Une marche funèbre résonne dans l'air.
Che diventa un blues.
Ça se transforme en blues.
Che diventa un blues.
Yeah. Ça se transforme en blues. Oui.
Un hommage à Leo Francioli par Tiziano Morena de cet album Vita et le titre qu'on entend à l'instant, Tango Blues. On en reparle dans quelques instants tout à l'heure dans Cultiver Lausanne avec Stéphane et Tiziano Morena.
Radio Django, la rose des vents.
Et à 18h17, on passe à la Rose des Vents, la 101e Rose des Vents pour être tout à fait précis. Et je suis ce soir en compagnie de Nyangu de la rédaction de Voix d'Exil. Bonsoir Nyangu.
Bonsoir Fabien.
Nyangu, tu as choisi d'aborder ce soir un sujet dont on a déjà passablement parlé sur Radio Django. Il s'agit des accords de Dublin. Ces accords font passablement couler d'encre depuis quelques temps. Pour quelles raisons ?
Oui, mais bien que ces accords soient connus et largement débattus dans les médias, c'est important d'en parler car il impacte considérablement les quotidiens de requérants d'asile. Je vais ici m'intéresser plus spécifiquement à leur récente évolution.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Hanselmann. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes secrétaire roman de l'entraide protestante suisse, plus connue sous le nom de l'EPER. Et vous allez nous éclairer sur le sujet ce soir que vous connaissez bien.
Voilà.
Alors, le règlement Dublin est un sujet complexe depuis sa mise en œuvre en décembre 2008 par l'Union européenne. Ma première question, bonsoir madame. Alors,
bonsoir.
Pourriez-vous s'il vous plaît, pour commencer par expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce que sont ces accords ?
Alors je pense qu'effectivement on en parle beaucoup, mais concrètement ça reste un peu flou dans la tête des personnes qui vivent en Suisse et des requérants d'asile encore plus. Donc je pense que c'est utile de toute façon d'expliquer un petit peu le contexte. Les accords de Dublin, ça en fait font suite en fait à la création de l'Union européenne et surtout de la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Union européenne pour les résidents de l'Union européenne. Et du coup, les États membres de l'Union européenne se sont dit, à l'intérieur, il faut que les gens puissent passer d'une frontière à l'autre. Il y a plus de postes de frontières, mais ça veut dire qu'on doit s'entendre. Les pays doivent s'entendre sur les critères qui font que on peut déposer une demande d'asile et comment elle est traitée au sein des différents pays. Donc là-dessus, je pense que c'est assez clair. Après, ce qui impacte beaucoup la Suisse, c'est le fait que les accords de Dublin ont pour principal effet de définir quel État est responsable d'enregistrer la demande d'asile et de traiter la demande d'asile. Ce qui veut dire que c'est un des axes principaux de ces accords. Et ce qui a pour effet que, en général, c'est réglé comme ça dans les accords de Dublin, c'est le premier pays par lequel passe le requérant d'asile qui est chargé de traiter la demande d'asile. Donc dès le moment où la personne migrante qui cherche refuge passe notamment par l'Italie, la Grèce ou par les frontières de la Hongrie, eh bien, elle est renvoyée vers ses premiers pays qu'elle a traversés. Pour ce faire, en fait, l'Union européenne a créé une base de données où sont enregistrées les empreintes des requérants d'asile. Donc dès le moment où ils ont donné leur empreinte à une autorité quelconque sur le pays qu'ils ont traversé, ils sont renvoyés vers ce pays pour traiter cette demande d'asile. Mais ça veut dire que c'est aussi un petit peu problématique, c'est-à-dire que la Suisse, en fait, n'entre pas du tout en matière sur les motifs d'asile. Donc il n'y a pas du tout d'audition sur ce qui a fait que ces personnes ont traversé autant de frontières, la Méditerranée.
Pour quelle raison est-ce que la Suisse n'entre pas en matière? Parce qu'elle n'est pas, elle, concernée comme premier pays?
Exactement. C'est justement les accords de Dublin qui font que, finalement, il est considéré que ce n'est pas de la responsabilité du pays où finalement la personne vient. Ce pays-là n'est pas responsable de traiter sur le fond cette demande d'asile. Mmh. Donc en fait, ces personnes sont considérées, il y a une non-entrée en matière dans la plupart des situations et sont traitées comme des personnes qui sont frappées d'une non-entrée en matière. Et donc ça veut dire qu'elles ont une aide d'urgence, elles sont à l'aide d'urgence, donc des conditions d'hébergement extrêmement précaires. Ce qu'on appelle les abris PC, hein, dans le canton de Vaud, il y en a beaucoup qui sont ouverts pour héberger des personnes, elles n'ont pas le minimum de l'aide sociale, hein, donc elles ont très peu par jour. C'est en général en Suisse 8 francs, mais c'est sous forme de bons. Il faut se présenter chaque jour pour avoir droit à ces bons. Dans ces personnes qui vivent dans de telles conditions, il y a vraiment des personnes qui ont droit à un statut de réfugié. Mais on n'a pas examiné leur demande sur le fond et ils sont traités comme des personnes à renvoyer dans l'autre pays, Dublin.
Alors, ces accords ont subi plusieurs révisions, mais quelles sont les évolutions récentes?
Alors, le dernier accord qui est entré en vigueur pour la Suisse, c'est le Dublin 2, qu'on appelle Dublin 2. Et c'est celui justement qui est entré en vigueur en 2008 et qui fait que ces accords entre États permettent à la Suisse, mais aux autres pays européens qui ne sont pas aux frontières de l'Europe, de renvoyer les personnes migrantes dans les pays frontaliers. Ce qui a pour effet, comme vous le savez, de surcharger ces pays frontaliers comme l'Italie, qui sont quelque part débordés par la tâche que représente l'accueil et le traitement des demandes d'asile sur leur sol.
Alors, mais quels sont les nouveaux enjeux?
Alors, une des particularités de l'accord 3 serait aussi que, finalement, on demande systématiquement aux personnes de déposer leur demande d'asile directement au pays. Elles n'auraient même plus l'accès à un autre pays. Donc ça veut dire que s'il y a une personne qui vient de Syrie, qui a échappé au conflit en Syrie, arrive jusqu'en Italie et face aux autorités fait sa demande d'asile en Italie, elle n'aurait même plus accès à aller en France après. Donc c'est à la frontière, elle serait immédiatement renvoyée.
D'accord. Alors pouvez-vous nous dire, en plus de l'assignation des résidences de famille par le juge de paix?
Oui, alors c'est ce qu'on en discutait un petit peu auparavant. Hein. Les accords de Dublin, c'est vraiment quelque chose qui est international, hein, européen. Et puis après, il y a l'application par la Suisse et par les cantons. Alors la migration, l'asile est une compétence fédérale, c'est sûr, mais c'est les cantons qui sont chargés des renvois. Ils le font sur mandat de la Confédération, sur décision de la Confédération. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le canton de Vaud, jusqu'à présent, c'était la justice de paix qui devait valider notamment les assignations à domicile qui étaient proposées par le service de la population. Et c'est toujours le cas. Il faut savoir que c'était dans la très large majorité des cas, la justice de paix allait dans le sens de la décision qui était proposée par le service de la population. Et ça, ça fait partie des dernières modifications de la loi d'application vaudoise, justement des législations fédérales, qui a, vous l'avez lu dans la presse, subi un durcissement de manière générale. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut regretter à ce stade.
Alors, c'est nouveau, la manière dont la Suisse applique ses accords est satisfaisante?
La difficulté, c'est que la Suisse, en fait, est jugée, selon plusieurs rapports au niveau international, sur une base comparative, comme appliquant de manière très stricte les accords de Dublin. On a dans les accords de Dublin une clause dite de souveraineté qui permet aux États de faire des exceptions aux accords de Dublin, c'est-à-dire de prendre en considération l'aspect de la vulnérabilité, l'aspect humain et de compassion envers les êtres humains. Cette clause, elle est peu appliquée en Suisse. Et puis, on ne sait pas vraiment sur quelle base non plus. On a peu d'informations sur son application par les autorités suisses. Voilà.
Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui tant décriés, notamment par les associations de défense des migrants ?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de critiques ou de questionnements qui viennent des organisations de défense des migrants, mais qui viennent aussi des instances européennes. Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, ont à plusieurs reprises remis en question la manière dont fonctionnaient les accords de Dublin. Et on dit que cette réglementation, en fait, ne correspondait pas aux droits des demandeurs d'asile et au bien-être des demandeurs d'asile. C'est vrai qu'on peut, partir, c'est assez compliqué, mais je veux dire, si la personne, elle doit passer d'un pays à l'autre et à chaque fois dans des conditions de précarité assez très grandes, avec un risque de pouvoir être finalement emprisonnée, dans le but d'un renvoi, alors qu'elle a peut-être des vraies raisons de demander l'asile, mais que sa demande n'est pas examinée, on a un risque que finalement elle ne soit jamais entendue. Et donc ça pose un problème au niveau du droit. Donc ça, c'est vrai qu'il y a sous cet aspect-là, l'aspect aussi de la surcharge des pays frontaliers a aussi été évoqué dans plusieurs rapports. Et puis, pour ce qui concerne la Suisse, il y a effectivement cette volonté de sensibiliser les autorités pour qu'elles appliquent plus souvent et plus systématiquement la clause de souveraineté, notamment pour les personnes vulnérables, les mineurs ou les personnes qui sont traumatisées.
D'accord. Est-ce que les luttes souvent locales peuvent-elles influencer ces accords qui sont décidés à l'échelle européenne ?
Alors, je pense que c'est pour ça que j'évoquais aussi les instances internationales. Je pense que les accords en eux-mêmes vont pouvoir être remis en question par des instances internationales, certainement. Je pense qu'il y a des mouvements de solidarité qui se sont créés dans la société civile et qui sont importants. De notre côté, à l'EPER, on a lancé aussi une campagne qui s'appelle « Annoncer la couleur pour une Suisse humaine et juste ». Je vous ai apporté un petit bracelet, une banderole. Mais je pense que c'est vraiment important. L'idée est vraiment de sensibiliser la population dans sa globalité et de dire, OK, nous, on est en Suisse, il y a des traditions suisses, la tradition humaniste, humanitaire, elle fait partie de nos traditions et on doit le revendiquer comme notre patrimoine, quelque part. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Parce que de plus en plus, les personnes requérantes d'asile, elles sont dans des centres qui sont souvent à l'extérieur des villes et il y a peu de contact avec la société civile, la population locale. Et il y a peut-être aussi un certain nombre de stéréotypes qui peuvent aussi émerger de cette situation et du fait qu'il n'y a pas vraiment une rencontre entre la population suisse et les personnes requérantes d'asile.
Et puis on peut se procurer directement chez vous en contactant les pairs, cette banderole et ce bracelet.
Absolument.
C'est le but.
C'est le but. Et puis, ah oui, je voulais juste mentionner encore.
Oui, parce que précisons que ce bracelet, il est mauve, avec une petite plaquette.
Alors on a trois couleurs à choix cette année. Et puis c'est vraiment l'idée d'annoncer la couleur et de marquer sa volonté d'avoir une Suisse humaine et juste. Je voulais Voilà.
Et voilà, un petit bracelet, donc aux couleurs mauves avec.
Et ça, c'est pour Pôle Sud.
C'est joli. On affichera avec un petit bracelet en tissu mauve, bleu ou jaune, si j'ai bien vu, avec dessus une petite plaquette gravée annoncer la couleur.
Annoncer la couleur.
Voilà, et puis ce bandeau qui est bleu, annoncer la couleur également pour une Suisse. Solidaire, oui.
Voilà, humaine et juste en faveur des réfugiés. Et on finit peut-être dans le canton de Vaud et à Lausanne en particulier, on va finir cette campagne par l'organisation le 17 juin à l'occasion de la journée du réfugié, d'une rencontre entre les associations qui se mobilisent, les personnes qui aimeraient se mobiliser, donc les bénévoles qui aimeraient se mobiliser et les requérants d'asile, qui se tiendra à l'espace Dickens.
Voilà, Dickens, le samedi 17 juin 2017, donc dans exactement un mois.
Voilà.
Merci beaucoup Magali Antelman. Merci de venir nous apporter votre éclairage sur les accords de Dublin, un sujet, on l'a compris, qui va encore amener de l'encre et de l'encre qui va couler et couler et encore. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes secrétaire romande de l'EPER, l'entraide protestante suisse. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir de ces accords de Dublin. Et merci à Nyangou de la rédaction de Voix d'Exil pour la préparation de cette interview. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm et également sur le site de Voix d'Exil, voixdexil.com, avec tous les détails sur cette version .ch, on me souffle exactement, merci.
Merci à vous, Fabien.
voixdexil.ch, voilà qui est corrigé. Et puis alors, on vous met aussi les photos qu'on a fait à l'instant du bracelet. Merci Magali Hansenmann.
Radio Django, 18-19h.
Sans transition aucune, à 18h30, on passe à un autre volet de la Rose des Vents. Ce soir, nous allons revenir sur les assises de l'UVAM, l'Union Vaudoise des Associations Musulmanes qui se sont tenues le dimanche 7 mai à Prix au CCML, le Complexe Culturel des Musulmans de Lausanne. Alors Daniel, pour commencer brièvement, est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'UVAM ?
C'est une organisation fêtière née en 2004 et fondée par 9 associations musulmanes, représentant entre autres les régions de Lausanne, de Vevey et d'Yverdon-les-Bains. Ses objectifs divers concernent notamment le renforcement des bonnes relations avec les autorités communales, cantonales et la population vaudoise, la promotion de l'intégration des musulmans et des musulmans du canton de Vaud et des musulmanes, pardon, et le dialogue interreligieux.
Alors, le 7 mai, vous avez assisté aux assises de l'UVAM. Quels ont été les thèmes de cette journée du 7 mai ?
La première table ronde proposa une réflexion sur les enjeux et les perspectives d'un islam dit vaudois. Et la deuxième s'intéressa aux messages culturels, religieux ou citoyens que peuvent porter les centres musulmans vaudois entre réalité et attente.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Gemperli. Bonjour.
Bonjour,
bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Oui, bonsoir, effectivement, 18h30, mais il y a le soleil, on est content de le voir. Vous êtes président de l'UVAM, l'Union Vaudoise des Associations Musulmanes, depuis 2012, médiateur professionnel. Vous êtes aussi très engagé politiquement sur le terrain des Verts et vous siégez au conseil communal de Morges ainsi qu'au bureau du conseil comme deuxième vice-président. Alors Pascal Kemperli, pourquoi une union d'associations musulmanes dans le canton de Vaud ?
Alors, toutes les questions qui concernent les communautés religieuses sont de la compétence du canton. Et donc, les autorités du canton, elles ont besoin d'avoir un partenaire fiable, un partenaire, entre guillemets, fort, qui peut répondre aux questions, aux besoins. Donc, il est très utile de pouvoir, en fait, coordonner la communauté. On l'a vu, par exemple, la question de la sépulture musulmane à Lausanne. C'était beaucoup plus facile pour les autorités aussi d'entrer en matière. Quand il y a quelqu'un, on sait ce que ça donne. Il y a un partenaire, on connaît les gens. Et puis ça peut coordonner plusieurs centres, plusieurs lieux de culte.
Mmh. Et comment ça se passe au niveau de l'Union, étant donné qu'il y a une telle diversité, justement, des groupes musulmans, en fait, qui sont dans le canton de Vaud. Est-ce que vous arrivez à une forme d'unité ?
Oui, on aurait une forme d'unité. C'est toujours c'est d'abord des citoyens suisses qui sont ensuite de confession musulmane. Donc c'est l'unité, en fait, tout simplement, c'est des centres, des lieux qui organisent le culte localement et puis se regroupent au sein de l'UVAM pour toutes les questions qui sont plus sur le plan cantonal, plus qui nécessitent plus de coordination, justement l'organisation d'événements, l'échange de savoirs, l'échange de compétences. Il y a aussi l'entraide qui est importante entre les membres de l'UVAM. À titre d'exemple, je peux vous dire, on avait déjà le cas d'une nouvelle, d'un nouveau centre qui avait besoin en fait d'une caution pour le loyer et que les autres centres ont aidé pour mettre la caution, puis ensuite il y a un remboursement plus tard. Voilà, il y a bien des imams quand il y a une mosquée ou il y a pas d'imam parce qu'il est en vacances ou autre, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient aider. Donc toute cet échange, cette entraide est très très importante.
Mais il y a également en fait un appui au niveau des recherches d'emploi. Au niveau social, c'est assez large. Hein.
Oui, ensuite, on a des projets avec le BCI, par exemple, sur ça s'appelle le job coaching pour aider les jeunes à intégrer le marché de l'emploi. On a des formations à la citoyenneté. Donc après, il y a tout un volet aussi social.
Est-ce que vous pensez que quand on est musulman en Suisse, on doit d'abord s'identifier plutôt par rapport à sa citoyenneté, son identité, son origine, ou plutôt par rapport à son identité religieuse ?
C'est une excellente question. C'est que... Bah, aujourd'hui, nous sommes très, très souvent forcés de nous identifier d'abord en tant que musulmans, ce qui n'est pas forcément...
Forcés, vous dites bien.
Oui, forcés, parce qu'on nous balance des questions qui, en fait, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à toujours entendre ces accusations infondées, en fait, où on dit de manière... Beaucoup d'amalgames, les musulmans ne respectent pas la loi, ceci, cela, mais... Toujours sans preuve, en fait. Quand je demande, oui, mais qui exactement ne respecte pas quelle loi ? Et là, ça s'épuise tout de suite, et puis je n'ai pas de réponse. Et ça, je trouve ça très problématique. Nous devons tout le temps nous justifier, dire oui, nous sommes des bons citoyens, oui, nous respectons la loi, même en étant musulmans. Et puis ça nous renvoie tout le temps à notre identité musulmane, qui, en fait, c'est une identité, c'est un niveau d'identité comme plein d'autres. Je suis aussi, comme vous avez dit, conseiller communal, je suis aussi papa, j'ai une profession... Et voilà, on est un peu limité, en fait, à cette identité religieuse.
Lors des assises, vous avez fait une boutade en disant que vous aviez choisi ce titre, parler d'un islam vaudois, pour piquer un petit peu la population vaudoise, on va dire. Quels seraient les critères d'un islam vaudois ?
Je répondrai d'abord par la question « Quels sont les critères pour un christianisme vaudois ?» Je pense que ça fait beaucoup de peine à y répondre.
Voilà. On en a pour deux bonnes heures.
Non, je crois que c'est une question plutôt de... d'organisation, en fait, de gestion de culte musulman dans le canton de Vaud. Donc nous avons un certain nombre de critères, nous avons un certain nombre d'activités. Et je crois qu'un islam vaudois, on va peut-être le voir dans le cadre d'une éventuelle reconnaissance. Là, je pense, parce qu'une reconnaissance, c'est toute une vérification de la communauté. Puis ensuite, si ça passe, il y aura une loi sur la communauté. Puis là, on pourrait, en tout cas, juridiquement parler d'un islam vaudois.
Mais justement, vous êtes depuis 2015 en pourparler avec le canton de Vaud. Mais qu'est-ce que cette reconnaissance juridique officielle pourrait apporter à la communauté musulmane du canton de Vaud ?
Alors, sur le plan pratique, en fait, c'est pour faire du bon travail, tout simplement. On serait consulté par les autorités cantonales et communales sur des sujets qui nous concernent.
Quels sujets pourriez-vous préciser, s'il vous plaît ? Les principaux sujets qui sont fondamentaux pour que vous puissiez avancer au sein, justement, du canton de Vaud ?
Et dans les Alors, en fait, actuellement, les communautés reconnues sont consultées sur toutes les questions qui ont lien avec les religions. Par exemple, la reconnaissance, à ma connaissance, la reconnaissance d'une nouvelle communauté, les anciens déjà reconnus sont consultés. Il y a plein d'autres choses, comme au Grand Conseil, il y a un groupe de travail entre les communautés religieuses reconnues et des députés qui s'y intéressent. Si vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, toute l'intégration institutionnelle en dépend fortement. Donc toute coopération avec les autorités nécessite une reconnaissance d'intérêt public. Puis après, il y a à ne pas oublier la valeur symbolique, c'est un peu ce que je disais avant, parce qu'en fait, à travers cette reconnaissance, justement, où il y aura une vérification en profondeur de respect de tous les principes de la Constitution, la transparence financière, enfin, il y a tout ce que vous voulez, et que pour nous, c'est une excellente opportunité, à part tous les autres avantages, de prouver en fait que voilà, nous sommes pleinement intégrés, nous sommes des bons Suisses, des bons Vaudois, des bons citoyens. Et là, il y a un moyen de le prouver. Et moi, c'est une grande motivation de pouvoir prouver. Et normalement, ça doit faire calmer tous les esprits un peu à côté de la plaque.
Est-ce que vous pensez que cette reconnaissance juridique pourrait faciliter l'intégration sociale des musulmans dans notre communauté, de manière générale. Je vous pose cette question parce que lors des assises, une femme s'est insurgée avec tristesse et colère en expliquant que pour les femmes, le port du voile est un frein à l'intégration et sociale et professionnelle. C'était assez marquant.
Tout à fait, ouais. Donc c'est les deux, reconnaissance sociale et reconnaissance juridique.
Mais qu'est-ce qui prime ? Moi, j'aurais plutôt le sentiment que la reconnaissance sociale est peut-être plus importante avant tout.
Oui, mais la reconnaissance sociale, je crois, en bonne partie, elle est là. Pas totalement, on le voit assez souvent. Mais on voit quand même aussi le rejet assez large des Vaudois par rapport à l'initiative de l'UTC qui attaquait clairement la communauté musulmane. Il y a d'autres exemples comme ça. Et je pense que les gens sont parfois assez pragmatiques. Et puis, je crois que cette reconnaissance sociale, elle est en partie là. Il ne faut pas oublier que la procédure de reconnaissance prendra 7, 8, 9, voire 10 ans. Et pendant ce temps-là, il y a tout un panoplie d'actions en fait, qu'on va entreprendre, continuer la communication, des événements, rencontres de la population. Donc ça va un peu en parallèle. Et puis la reconnaissance sociale, on ne peut pas trop la mesurer. Voilà, on ne peut pas exactement dire à quel moment c'est le bon moment. Et je crois que l'avantage de la reconnaissance juridique, c'est un peu flexible au niveau du temps. Donc en fait, je pense que la meilleure chose, c'est de commencer, de faire cette vérification, et puis si on a l'impression que ça ne se passe pas bien, on peut toujours ralentir un peu les choses. Donc là, il y a une certaine flexibilité.
Et quels seraient les principaux partenaires pour arriver à cette reconnaissance sociale dans la société ? Est-ce que c'est plutôt l'école ? Est-ce que c'est les professionnels ?
C'est les Vaudoises et les Vaudois.
C'est le peuple, donc.
C'est le peuple.
Et puis, considérant la diversité de l'islam, il paraît donc difficile de parler d'un islam vaudois, si on a bien compris vos propos ?
Ah, c'est comme dans toutes les communautés. Comme je dis pour les chrétiens, en fait, vous avez les deux grands, les protestants, les catholiques. Ensuite, vous avez les anglicans, les orthodoxes, l'armée du salut, puis une dizaine d'autres groupements. Voilà, je dirais plutôt qu'en fait, on est probablement plus représentatif que les communautés chrétiennes, parce que l'UVAM, il y en a une qui représente 17 des mosquées sur 21. Donc ça fait, je ne sais pas, 80-90% de représentativité. Alors que chez les chrétiens, il faut les chercher, les 80-90%.
Ouais, évidemment. Par contre, il paraît nécessaire d'agir pour changer les perceptions sociales des musulmans et obtenir cette reconnaissance politico-juridique. Il revient entre autres à l'UVAM, que vous présidez, de faire participer la communauté musulmane à la respiration de la société, pour reprendre une expression empruntée à l'imam de la mosquée de Crissier, Mostafa Brahmi. Merci beaucoup, Pascal Gemperli.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Vous êtes président de l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes. Un sujet à écouter sur notre site django.fm qui était préparé ce soir, donc ce sujet par Daniel. Merci. One love, one blood. One love.
Matériel, on ressent les mêmes douleurs. On n'a pas la même couleur de peau, mais le sang est le même. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos frères sont des lions, se battent pour la paix. Sommes-nous prêts à donner nos vies pour un brin de liberté? Amour et paix, amour et paix. N'ayons pas peur de la différence, fraternité. J'ai dit amour et paix, je répète amour et paix. N'ayons pas peur de la différence, fraternité. C'est pas de questions, il t'apprend que le bonheur n'est pas dans les millions, mais plutôt dans les valeurs humaines que nous partageons. Ils veulent nous diviser, je te parle d'unité. La plus grande des richesses, c'est la diversité. Ils veulent nous diviser, je te parle d'unité. Dans la diversité, nous sommes tous liés, oui.
Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam.
Salam alaikum.
différence fraternité. J'ai dit amour et paix, je répète amour et paix. N'ayons pas peur de la différence fraternité. C'est
salam alaikum.
Ce titre en duo de Salom et Soprano, elle signait, qui s'appelle l'Alguerino, bien sûr, pour conclure cette Rose des Vents.
Radio Django, culture.
Bonsoir Stéphane. Ce soir dans Cultiver Lausanne, nous allons parler musique.
Oui, enfin, Fabien, on va surtout rendre un nouvel hommage aux polyinstrumentistes, notamment contrebassistes, violoncellistes et pianistes, Léon Francioli, qui nous a quittés le 9 mars 2016.
Effectivement, une célèbre figure de la vie lausannoise et internationale même, que tu avais déjà évoqué dans tes mardis, les fameux mardis de Stéphane Venanzi.
Oui, c'est justement ce qui nous vaut, vu qu'il écoute Radio Django, ça, donc, ça existe, des gens écoutent Radio Django. Donc on a, c'est grâce à ça qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir Tiziano Mouren, un guitariste et chanteur, pour nous parler du disque Vita. Un très beau disque sorti en avril de cette année, qu'il a enregistré avec Léon Francioli, principalement au piano, et la complicité de Pierre-Louis Pecla à la voix narrante.
Et puis pour vous qui nous écoutez depuis le début de l'émission, et bien vous avez pu déjà entendre un extrait tout à l'heure, après la rubrique Vivre à Lausanne.
Oui, c'est une vraie chance, c'est certain. Et puis tant pis pour les absents qui, comme chacun sait, ont toujours tort.
Ah ben, comme toujours. Bonsoir Tiziano.
Bonsoir.
Bienvenue sur
Radio
Django.
Merci de m'avoir invité.
Mais avec grand plaisir. On vous connaît davantage en tant que musicien de blues. Comment avez-vous rencontré Léon Francioli et de quelle envie est né ce dernier disque Vita?
Oui, alors en fait, j'étais tout d'abord fan de Léon parce que quand je suis arrivé en Suisse et à Lausanne, j'allais me balader au concert de Léon. Et je me rappelle encore de l'avoir entendu en solo, d'avoir participé à certains de ses concerts quand les phonés existaient encore à la rue du Bourg, ou le Pianissimo, voilà, c'était des clubs de jazz. Et je l'ai connu un peu plus tard, vers début des années 90, parce qu'un ami en commun nous a présenté, voilà, il s'appelait Philippe Grandjean, il avait un studio d'enregistrement au lac de Bray. Maintenant, il y a un golf.
C'est autre
chose. Le studio n'existe plus.
Ouais, c'est malheureux, ça, les studios qui disparaissent. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie? Donc, c'est sa rencontre qui vous a donné envie de créer un album hommage qui s'appelle Vita?
Alors, tout d'abord, j'ai travaillé longtemps avec Léon parce que l'idée était de monter un spectacle avec Pierre-Louis Pecla, bien entendu. Et après, je me suis retrouvé avec des titres inédits parce qu'on avait quand même enregistré dans le studio de Léon Francioli à Renan une quinzaine de titres. Et alors, je me suis dit, mais comme c'est des titres inédits et que Léon est parti sans rien nous dire, en fait, il ne nous a pas prévenus. Et j'ai quand même demandé d'abord à sa femme, à Véronique, que je remercie beaucoup. Et voilà, le CD est né. En fait, j'avais envie de faire écouter ce disque. Voilà, disque, on l'appelle comme ça. Moi, je suis des années 60, j'appelle encore ça disque. Voilà. Mais il y a un comeback, non, du vinyle.
Ça existe encore, puisqu'on a la galette de 17 grammes physiquement ici. Et oui, c'est collector. Absolument, je l'ai dans les mains.
Alors, en ce qui me concerne, donc, dans une société à l'imaginaire autant colonisée par le capitalisme tardif, parler d'argent, franchement, ça m'ennuie assez généralement, pour ne pas dire que ça m'irrite. Pourtant, la manière dont ce projet autour de la figure du regretté Léon Francioli a été monté me semble assez digne d'être signalé à nos auditeurs, notamment par sa réjouissante singularité, surtout dans un paysage de culture aussi massivement subventionné. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Tiziano Mouren, à nous en dire un peu plus à ce sujet?
Je pense déjà qu'on va vendre quelques millions de copies de ce CD, donc on sera richissime
dans
quelques mois. Non, en fait, comme je disais tout à l'heure, le CD est né comme ça, parce qu'il y avait des chansons qui étaient déjà enregistrées avec Léon. Tout le monde était d'accord de travailler à ce projet à titre gratuit, donc le travail était fait, chacun a mis du sien, c'est-à-dire l'ami qui a mis à disposition le studio d'enregistrement pour terminer ce travail, donc l'editing, le mastering, et voilà. Et le côté graphique de la pochette, la réalisation du livret du CD. C'est une amie, Ilana Dandolfo, qui a fait. Elle est artiste peintre, donc elle n'est pas professionnelle dans le côté graphique. Et on a aussi la pochette de notre ami Raymond Burki
qui nous a
m'avait offert justement son dessin pour la fourre du CD.
Ouais, puisqu'on en parle, donc, pour moi, un autre point fort de ce disque, c'est justement la beauté de l'objet en lui-même. Donc pas seulement la pochette illustrée par Burki, comme on vient de le dire, mais aussi son livret, qui comprend une partie des textes des chansons, de nombreuses photos, ainsi qu'un joli témoignage de Véronique, la veuve de Léon. Donc c'était important pour toi ce côté visuel, et puis comment as-tu sélectionné les photos qui sont présentes à l'intérieur du livret?
Alors il est très important parce que moi j'ai besoin encore de pouvoir toucher, disons, le livret, le CD. Aujourd'hui on décharge, on achète la musique online et ça va très bien, je ne suis pas contre, au contraire, je décharge aussi des fois, mais j'ai ce besoin, quand il y a une nouveauté, j'ai besoin d'acheter le CD, de l'avoir chez moi.
Physiquement vers vous.
Physiquement, ouais. Exactement. Et puis, pour ce qui est des photos, en fait, il y a une partie des photos officielles des concerts de Léon, et il y a une partie intime, c'est-à-dire familiale, et Véronique nous a mis à disposition ces photos de famille, des vacances avec Léon, et on a ajouter après toutes ces photos.
D'ailleurs, dans le livret, on peut notamment voir une photo prise lors du tournage d'un court-métrage qui s'intitule « Le rêve de Sergueï » et qui a été réalisée par Madeleine Joss-Blaser.
Marianne Joss-Blaser, que tu as rencontré, Stéphane.
Oui, on écoute d'ailleurs tout de suite un extrait de son témoignage.
Quand j'ai eu l'idée de mettre en scène et de réaliser le film, d'après cette nouvelle de Tchekhov qui s'appelle le roman de la contrebasse, qui chez moi s'appelle le rêve de Sergueï, j'ai tout de suite pensé à Francioli, et plutôt que penser, j'avais son image devant les yeux, sa silhouette, sa tête typique avec sa barbe. Je le voyais déjà avec un haut de forme. Et puis, je n'ai pas hésité, je le connaissais un petit peu de renommée, qui était une grande renommée à ce moment-là. Et je l'ai contacté, puis il m'a dit, en fait, tout de suite oui, parce qu'il ne s'agissait pas de jouer, ça il n'avait pas envie, et ça on ne lui demandait pas d'ailleurs, mais il s'agissait de jouer et de représenter un musicien contrebassiste dans une ou deux séquences. Et puis voilà, il y avait entre autres une séquence où il longe avec son collègue une colline devant l'horizon. Une très jolie séquence où on les voit traverser. Mais pas avec la contrebasse comme j'avais imaginé. Parce que M. Francioli, quand je lui ai proposé de s'occuper de la contrebasse, il a dit « Ah non !» Moi, j'ai traîné cet instrument lourd toute ma vie. Je refuse. Je serai seul le violoniste. Je suis d'accord de porter le violon. Alors voilà qu'on voit M. Francioli qui trimballe contre l'horizon un violon.
Un témoignage maillé d'anecdotes franchement amusantes sur sa collaboration avec Léon Francioli que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site www.django.fm, Stéphane.
Pour en revenir à nous, Tiziano Morena, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui à l'ère du téléchargement, légal ou pas, de la désincarnation et du morcellement de la musique, de sortir encore un disque sur un support physique, qui plus est un disque tel que celui-là porteur d'un concept?
En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est important, ce qui me concerne, d'avoir un support physique, donc comme une librairie où on peut choisir de temps en autre un livre, un disque à réécouter dans le temps. Ça va très bien de télécharger puis d'avoir des bibliothèques online dans notre propre ordinateur, mais voilà, moi j'ai encore ce besoin d'avoir chez moi. J'ai encore toute ma collection de vinyles qui date des années entre 60 et 70, quand j'étais un enfant, voilà, tout petit comme ça. Et puis voilà, le concept, c'est que ce n'est pas un produit commercial du tout, c'est rendre hommage à Léon, à ce grand compositeur connu dans le monde entier et à l'ami surtout. Ouais.
Dans le titre « Tout est madre », il y a une référence à Pier Paolo Pasolini, poète frioulant et sorte de figure tutélaire pour le disque, mais surtout il y a la voix admirable d'un autre poète, vaudois celui-là, Pierre-Louis Pécla. Comment as-tu eu l'idée, toi ou Léon, de lui demander de réciter par-dessus les morceaux enregistrés en duo ?
Alors d'abord, deux mots pour Pier Paolo Pasolini. Au début, avec Léon, nous avions pensé de mettre en musique certains poèmes du poète friulon bolognais, comme on cite dans le disque. Et après, c'était compliqué de pouvoir obtenir les droits et utiliser ses poésies. Alors, Léon, un jour, il m'a dit, mais écoute, Tiziano, on ne va pas se casser le... on ne peut pas dire des vilains mots.
Non, bien sûr que
non. On ne va pas se casser la tête, voilà. Et on va écrire nous-mêmes les chansons, en fait, les textes. Et pour ce qui est de Pierre-Louis Pécla, c'est une chouette rencontre très colorée et poétique. Du fait que, en fait, c'était l'idée de Léon. Un jour, on était en studio et il m'a dit, mais écoute, moi, j'ai un ami écrivain lausannois qui pourrait traduire certains textes du CD. Et après quelques temps, on était les trois ensemble et on a enregistré les parties en français.
On parle justement de ce Pierre-Louis Pécla que tu as également rencontré, hein, Stéphane.
Oui, j'ai effectivement fait pas mal de belles rencontres lors de la préparation de cet entretien. Mais laissons plutôt la parole à Pierre-Louis Pécla.
Mais nous avons passé des heures en studio tout de même. Attention, il n'y en a qu'une qui n'a demandé qu'une prise. C'est celle dont le titre est... En français, la vie est belle. Et ce qui est drôle, c'est que ça apparaissait comme une conversation, alors qu'en fait, c'est chaque fois ou du français qui traduit l'italien ou de l'italien qui traduirait le français, parce que je ne sais plus dans quel sens nous allions. Mais en fait, ça avait l'air d'être une conversation entre deux bons hommes un peu avinés, devant une boîte de nuit au bord de la mer, alors que l'orage éclate, etc. J'aime beaucoup écouter cette chanson. C'est mon côté sentimental, j'imagine.
Et c'est un témoignage que vous pouvez retrouver sur www.django.fm. Et puis Stéphane, tu as été beaucoup touché par la voix de Léon Francioli.
C'est vrai que c'est toujours assez émouvant, je trouve, de pouvoir entendre parfois, comme ça, comme une ponctuation, la voix de Léon en début ou fin de morceau. Tiziano Morena, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'inclure ces bribes de dialogue dans le disque ?
Alors, on a rajouté le montage des voix de Léon après coup, en studio d'enregistrement, parce que je trouvais que les titres comme ça, ils étaient, je ne sais pas en italien comment on traduit en français, ascético, aseptisé, on dit. Je trouvais qu'il
ascétique.
Manquait... Aseptique.
Non, voilà. Ascétique.
Ascétique, voilà. Toi, c'est la langue française. Et je trouvais justement qu'il fallait ajouter des... Quelques passages, la voix. Et je me suis retrouvé en fait des bandes que quand on travaillait chez Léon à la maison, que j'enregistrais sur mon portable. Je dirais pas la marque, je ne citerai pas.
C'est pas grave. Pas de gros mots, pas de marque, hein, quand même.
Et puis voilà, après coup, on a rajouté la voix et avec quelques drôleries, des mots et des phrases drôles de la part de Léon.
Pour conclure, Tiziano Morena, si on désire se procurer ce CD Vita, hein, avec une belle pochette blanche et des caricatures dessus pour l'illustrer, comment est-ce qu'il faut procéder ?
Alors, soit on me contacte personnellement, ou bien on trouve ça maintenant à la FNAC à Lausanne, chez Disco Club à Genève, et puis il y a aussi un disquaire lausannois Obsession, en fait, oui, Obsession, oui. J'étais en train de confondre avec la librairie.
Voilà.
Et il y a Discabrac aussi, non ?
Non, pas encore. Non,
pas encore, mais c'est des choses à venir. Merci beaucoup, Tiziano Morena.
Merci à vous.
Et merci à Stéphane pour la préparation de ce dossier. Un sujet à retrouver avec ses bonus, une nouvelle fois sur notre site www.django.fm. Quatre sujets étaient au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé du miel équitable, des accords du Blin, de l'Union vaudoise des associations musulmanes et de Vita de Tiziano Morena. C'était le programme de ce mardi 16 mai sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. Notez encore que ce jeudi, c'est la première de la kermesse de la presse, l'occasion de se réunir entre journalistes et gens des médias romands afin de débattre de l'avenir de la profession ou plus modestement de se rencontrer. Ce rendez-vous sera retransmis en direct pour vous sur Radio Django à partir de 18h. Au registre du Grand Direct, la semaine prochaine, nous proposerons toute une série de nouveaux sujets, notamment avec la Rose des Vents et les Regards Croisés. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour ce nouveau Grand Direct. Toutes les informations à suivre et à retrouver sur notre site www.django.fm. Merci à la technique ce soir et aux chroniqueurs Isabelle, Voix d'Exil, Daniel et Stéphane. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.